Bonjour Thierry Hoquet, nous parlons de votre nouveau livre qui s'appelle Les Presque Humains, sous-titré Mutants, Cyborgs, Robots, Zombies et Nous, qui est sorti en 2021 dans la collection L'Ordre Philosophique des éditions du Seuil. Ce livre, Les Presque Humains, pourrait être la suite logique de Cyborg Philosophie, Pensée contre les dualismes, qui a été paru en 2011. Entre-temps, vos recherches se sont portées principalement sur une pensée du sexe et de la biologie, tout d'abord par ces trois volumes, Le sexe biologique, Anthologie historique et critique, que vous avez dirigé, et par ce livre paru en 2016, Des sexes innombrables, le genre à l'épreuve de la biologie. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous rappeler ce qui vous amène à ce nouveau livre, Les Presque Humains ? Les Presque Humains, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas le S à presque.
Oui, merci pour votre accueil. Donc, à 10 ans d'écart, effectivement, depuis Cyborg Philosophie. Ce qui est très important, c'est qu'effectivement, c'est un parcours de réflexion continue qui a été jalonné par différentes explorations, dont je pense qu'en première approche, on peut dire qu'elles sont annexes et qu'il y avait en souterrain un cours unique qui se poursuivait. Pour revenir donc sur 2011 et Cyborg Philosophie, c'était un livre qui explorait une figure très particulière qui était la figure donc du cyborg, c'est-à-dire de cette créature hybride entre organisme et machine et tous les problèmes que cela pouvait poser, notamment pour une pensée de la liberté, de l'exploitation, mais aussi une exploration du sujet femme, puisque dans Cyborg Philosophie, il y avait une analyse très poussée de la pensée de Donna Haraway et de son manifeste Cyborg de 1984-1985. Et c'est pourquoi je disais en ouverture que tout ce qui concerne le sexe, le genre, la biologie peut être considéré comme annexe, mais en fait s'entrelace de bien des manières à ce qui a été mon cours de réflexion depuis 2011. Donc ça, c'est un premier point. Après cette analyse de la figure des cyborgs, que faire ? Haraway, elle est partie dans certaines directions très intéressantes qui l'ont amenée du côté des êtres domestiques, des chiens, des différentes symbioses et modes d'hybridation avec les vivants. Moi, j'ai exploré deux pistes, dont Les Presque Humains est la première, on peut dire, qui sont les suivantes. D'une part, on me demandait, après Cyborg Philosophie, si par exemple le problème ne se poserait pas différemment si on allait voir par exemple au Japon où les concepts d'animaux, de machines et donc d'humains sont très différents de ce qu'on connaît en Occident. Ça, c'est une piste que j'ai commencé à creuser mais qui est encore en cours. Et puis il y a ce qui s'est concrétisé donc en mai 2021 avec ce livre sur les presque humains, c'est-à-dire la constatation que le personnage de Cyborg, finalement, n'était qu'un parmi d'autres. Et c'est cette multiplicité qu'il m'a paru important d'affronter. Donc, ça commence par, on pourrait dire, une submersion. C'est-à-dire une submersion qui est marquée par les points de suspension dans le sous-titre, vous voyez, des mutants, des robots, des zombies et bien d'autres, en fait, qui finalement ne sont peut-être que des images de nous-mêmes. Que faire de cette diversité ? Que faire de cette multiplicité d'histoires et de personnages ? Une des pistes qui s'impose, c'est de dire chaque histoire, chaque personnage doit être écrit toujours au singulier, considéré dans sa singularité. Et en même temps, est-ce que ça serait vraiment satisfaisant de, comme ça, empiler les histoires les unes aux autres, empiler les fictions, sans jamais chercher à essayer de comprendre ce qui se dit à travers. Donc ce livre sur les presque humains, c'est une tentative un peu folle pour donner un instrument de compréhension, un instrument synoptique, un tableau qui recense en fait l'ensemble de ces figures ambiguës, ambivalentes, qui toujours questionnent et reviennent comme à une source ou un foyer premier, la figure de l'humain, toujours imparfaite, toujours bancale. Donc c'est bien toujours la figure cyborg, c'est-à-dire décrire ce qui peut être notre condition avec ses imperfections, ses défauts, son aliénation, ses limites, son tremblement, mais voir comment ça peut s'inscrire dans quantité de logiques différentes.
Alors, à partir de cette recherche-là, vous jetez d'abord un sort dans votre livre à deux figures actuelles qui surgissent, qui apparaissent, auxquelles on pense et qu'on confond souvent. C'est la figure du transhumain et la figure du post-humain. Vous écrivez une histoire de la figure du transhumain, principalement 1957, Julian Huxley. Et puis pour la figure du post-humain, on pense bien souvent à la singularité de Ray Kurzweil. Vous écrivez que par rapport à ces espoirs glorieux et sur deux, de trans ou de post-humain, quel tremblement marque l'émergence du presque humain ? Parce que, à un moment donné, forcément, puisque vous énoncez ce terme de presque humain et que vous le brandissez, et qu'on pense au transhumain et au post-humain, il faut que vous vous situez, ou en tout cas que ces figures presque humaines se situent par rapport au transhumain et au post-humain, qui, eux, sont des espoirs effectivement glorieux et sur deux.
Oui, merci. Alors effectivement, ça a été une des surprises quand le livre de 2011 est sorti, quand la cyborg philosophie est arrivée. Ça a été reçu comme un livre sur le transhumanisme ou le post-humanisme, ce que ça n'était pas du tout en fait. Puisque mon objet, ça n'était pas d'essayer de voir ce qui se donnait dans... ce qui se dessinait dans les laboratoires de la Silicon Valley, si vous voulez, ou pas seulement, en tout cas, ou pas prioritairement. Ce qui m'intéressait, c'était d'abord de voir comment l'humain était finalement une figure toujours problématique, dont le statut était difficile à cerner, comment des problèmes philosophiques surgissaient à la rencontre de ces dualismes tout à fait obsédants et récurrents dans notre pensée. Donc, il y a eu ce malentendu-là, où tout à coup, on me demandait d'intervenir sur des questions qui n'étaient pas les miennes, en fait. Et le point de jonction entre ces deux thèmes, la cyborg philosophie et le post-humanisme, si vous voulez, c'était la question générale de l'humain augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire d'être augmenté ? Et donc on voit bien que dans cette augmentation, on avait une des figures du presque humain qui apparaissait. C'était un presque humain au sens où on ne l'était plus complètement parce qu'on était déjà devenu autre chose. Il y avait une sorte d'au-delà de l'humain qui se dessinait et qui apparaissait, qui s'esquissait, mais dans une forme, alors, une forme quoi ? Une forme, j'allais dire, nécessairement méliorative, mais peut-être aussi empreinte d'une certaine nostalgie à l'égard de ce qu'était la figure simplement humaine. Donc, c'était pour moi, disons, des cas particuliers dans une aventure beaucoup plus générale qui était l'aventure, je dirais, de la préfixation de l'humain. Donc, presque humain, c'est une manière de faire la nique, si on veut, au trans et au post-humain, c'est-à-dire de dire, il n'y a pas que ces avenirs-là pour l'espèce. Il n'y a pas nécessairement d'ailleurs d'avenir pour l'espèce. Il y a, en revanche, une espèce, l'espèce humaine, qui ne se dit jamais simplement, mais qui toujours se prête à des préfixations. Donc, c'était une manière de, mettre en système et aussi du coup de relativiser ces questions obsédantes de notre contemporain que sont le trans et le post-humain, et sur lesquelles d'ailleurs beaucoup de personnes se penchent, tentent de comprendre ce que ça veut dire. Moi, je propose une certaine lecture de ce que c'est, mais pour moi, en fait, ça n'est pas du tout mon objet central, c'est juste ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que doit être l'humain pour qu'on puisse de cette manière l'infléchir en l'assortissant de quantités de préfixes. Donc, dans le livre, vous verrez qu'il y a non seulement les transhumains et les post-humains, mais il y aura aussi des téléhumains. Est-ce qu'on peut être simplement humain ? Est-ce qu'on peut être, comment on dirait, mono-humain ou mon-humain? Je ne sais pas, en fait. Donc, le presque, c'est un préfixe qui m'intéressait parce qu'il permet de bien dire ce tremblement. C'est un préfixe qui, pour moi, rappelle Jean Kelevitch un peu, c'est-à-dire le sentiment du presque rien, du je ne sais quoi. Et en fait, on s'aperçoit que l'affaire humaine, elle est travaillée, traversée par de tels tremblements. Des petits détails imperceptibles, des petits accidents suffisent à nous faire basculer d'un statut qu'on pourrait considérer humain plein et entier à un statut presque humain. Donc les points de bascule, les événements, les incidents, les accidents qui surviennent et qui nous font tomber, qui nous précipitent, ils sont en quantité incalculable, c'est-à-dire ils sont innombrables et ce ne sont pas forcément des points de bascule tout à fait perceptibles par leur ampleur. Hein. On est de l'ordre de quelque chose qui peut être de l'ordre des petites perceptions de Leibniz ou bien encore des petits accidents dont Pascal pressentait l'importance quand il parlait du petit caillou dans l'urètre de Cromwell ou de la légère inflexion dans le nez de Cléopâtre. C'est-à-dire, il y a des petits détails infinitésimaux qui ont l'importance finalement d'événements. Et presque humain, pour moi, c'est ça en fait. Donc, peut-être, j'en donne quantité d'exemples dans le livre, peut-être qu'il faut les rappeler ou les indiquer, mais dans les choses qui ont particulièrement intéressé le public, on va dire, parce que ça montre justement cette pesanteur, cette importance des petits détails. Il y a eu ce qu'on a rappelé dans Intouchable, c'est-à-dire tout à coup un homme d'affaires se retrouve paralysé. Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça lui fait? Ou bien tout à coup vous vous trouvez enfermé dans votre propre corps et vous ne pouvez plus communiquer avec l'extérieur que par des battements de cils. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Donc ça, dans ces moments-là, et là il s'agit d'incidents qu'on peut pointer du doigt, dire tel jour à telle heure il s'est produit ceci, mais qu'est-ce qui se passe également dans des processus beaucoup plus lents de désagrégation? Qu'est-ce qui se passe dans le vieillissement? Dans la conclusion du livre, je parle beaucoup de ce que m'a fait la maladie de ma grand-mère, mais qui était atteinte d'Alzheimer, et qui donc s'est dégradé, s'est éloigné de nous progressivement. Donc il y a des processus comme ça, lents, des incidents, des accidents soudains. Il y a comme ça, comment dire, on a le sentiment que finalement, nous ne sommes humains que par provision et toujours sur le point de basculer dans autre chose.
Alors à partir de cet état des lieux, général, de cet état de pensée, de cette histoire que vous dressez, cette historique documentée. Vous en arrivez à cette deuxième partie, et c'était déjà le cas dans cette construction dans Cyborg Philosophie, qui était la fin des dualismes. Et c'est quelque chose qui vous travaille sans doute beaucoup, cette histoire des dualismes, justement. On sent bien déjà là dans vos propos, Thierry Hoquet, que cette question des dualismes, vous cherchez à ne plus penser ainsi, en tout cas, à ne plus penser par dualisme. Et donc, dans cette deuxième partie de votre livre « Les presque humains », elle s'appelle, déjà elle se nomme « Logique des fictions, une typologie des presque humains ». Parce que c'est ça, une fois que vous avez dressé cet état des lieux, tous ces constats, vous avez voulu dresser une typologie des presque humains, donc une classification en fait, une classification très précise où vous allez interroger donc ces 12 catégories que vous avez trouvées et vous allez leur poser en tout cas les mêmes questions et les faire passer devant la même grille de lecture afin de pouvoir les comparer et les catégoriser. Mais cette typologie des presque humains s'appelle logique des fictions. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est cette logique des fictions.
Il y a une intuition de départ, je dirais, ou plutôt une, peut-être une exigence qui s'est imposée à moi. Et la question, c'est, on ne peut pas s'en tenir à l'accumulation de singularités. La philosophie exige une mise en ordre, en fait, de la diversité. Elle exige que on n'en reste pas à la succession indéfinie des expériences et de leur singularité. Donc, ce pari qui, à mon sens, caractérise l'entreprise philosophique, c'est que derrière la diversité des instances et la richesse des expériences, on peut identifier des valeurs, des problèmes qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que derrière les incarnations, il y a un sens qui se donne à voir. Donc ça, c'est fondamental, c'est très simple. Il n'y aurait pas d'esthétique, c'est-à-dire de philosophie de l'art, s'il n'y avait que l'histoire de l'art à faire. C'est-à-dire que si finalement les œuvres d'art n'étaient que des amas de pigments assemblés dans un certain ordre grâce aux subventions de mécènes, on ferait l'histoire de l'art, mais on ne ferait pas la philosophie de l'art. S'il y a de la philosophie de l'art, c'est qu'il y a, du sens à trouver là-dedans. De la même manière, si la science n'était que l'affaire de savants dans leur laboratoire financés par des grands programmes d'État, il n'y aurait pas de philosophie des sciences. Il y aurait une sociologie des sciences, peut-être. Bon, mais par rapport à ces questions, je dirais, s'il y a une philosophie des personnages à faire, à écrire, il faut en passer par une tentative de s'élever au-dessus de la singularité et du détail. Donc le pari est bien celui-ci. Derrière la diversité, retrouver les fonctionnements implicites, retrouver l'organisation secrète qui tisse finalement le sens et qui organise la diversité en apparence chaotique de l'expérience. Donc, évidemment, c'est un travail complexe à mener puisque on ne peut s'en tenir donc à disons un résumé des intrigues. Ce qu'il faut, c'est trouver l'identité des problèmes. Et du coup, ça exige peut-être de une certaine, j'allais dire une certaine violence à l'égard de la matière brute que nous livrent les fictions. Ce que je veux dire par là, c'est certaines fictions nous présentent par exemple des zombies qui parlent et qui ont des sentiments. Philosophiquement, on se demande du coup, en quoi est-ce qu'il peut encore s'agir là de zombies ? Donc sous un même nom, je dirais, se circulent certaines contrefaçons qu'il faut identifier. On nous dit, ce sont des zombies, en réalité, ça ne peut pas en être. En revanche, circulent sous des termes très différents ou sous des figures très différentes, peut-être des personnages qui représentent le même problème, représentent la même question. Par exemple, on peut dire que les zombies qui se multiplient à l'infini, de même que certains vampires qui transmettent ainsi leur nature à d'autres, finalement, nous pose une certaine question relative à la nature du vivant, de la vitalité, c'est-à-dire qu'un être vivant, en fait, ne se contente pas simplement d'être. Il se multiplie aussi et parfois, il se propage avec une rapidité inquiétante. Donc, sous la figure du zombie ou sous la figure du vampire, peuvent être présentées des figures qui finalement inquiète les humains dans la mesure où elles semblent prendre le pas sur leur mode, le mode standard d'existence, on peut dire. C'est également, on peut dire, la question des mutants, si l'on veut. C'est-à-dire les mutants qui ne sont en apparence que des différences infinitésimales par rapport à la norme de l'espèce, présentent parfois, dans certaines histoires, la terrible propriété de paraître être beaucoup plus adaptée que les formes standards, et donc menace de les remplacer, de se substituer à elles. Donc, c'est ce type de questionnement, ce type de problème qu'il faut aller chercher derrière, disons, le caractère profus, en fait, des histoires que l'on nous raconte. Aller trouver, en quelque sorte, la structure implicite et les problèmes logiques qui se posent derrière la diversité des histoires dans toute leur richesse, leur complexité. C'est-à-dire, il y a plein de raisons de s'intéresser à ces fictions, il y a plein de raisons de les aimer, de se passionner pour elles, de se plonger dans leur monde, mais il me semble que le regard philosophique, il exige d'abord un certain pas de côté, une certaine distance, mais aussi l'attention à la manière dont certaines choses cherchent à se dire à travers ces histoires. Et je crois, en tout cas c'est mon pari, que cela fait partie, ces problèmes philosophiques qu'on peut identifier font partie de l'intérêt que l'on prend, sans parfois en être nécessairement conscient, mais de l'intérêt que l'on prend à ces histoires et de la gourmandise avec laquelle on les consomme en fait.
Et puis il y a aussi peut-être ceci dans logique des fictions, c'est-à-dire cette séparation entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la fiction, cette grande séparation entre réel et ce qui n'est pas réel, parce que vous nous avertissez, vous nous prémunissez de certaines confusions, je vous lis. On a tort de penser que cyborgs, mutants ou extraterrestres ne sont que des fictions qui viennent redoubler les entités dont seule la science traite très sérieusement, c'est-à-dire rationnellement. Et vous ajoutez, elles nourrissent la science autant qu'elles s'en nourrissent. Les arrogantes disciplines positives sont bien souvent les scories des grandes explosions de l'imagination. J'aimerais que vous vous expliquiez là-dessus, parce que quand en employant logique des fictions, on pense également à ça, et vous aussi, vous y pensez.
Oui, merci. En effet, il y a une nécessité de s'insurger, je crois, contre ce que j'appellerais la police des genres. La police des genres, ici, c'est celle qui fait que les scientifiques veulent ainsi se prémunir contre, disons, des développements qu'ils jugent extérieurs à leur science. Il y aurait la vraie science, et cette science-là ne n'imaginerait pas, ne rêverait pas, et tout ce qui se passe dans les fictions ne serait finalement que une version moderne des contes de fées et n'aurait rien à voir avec l'activité scientifique. Donc je pense que le brouillage, en fait, hein, entre science et fiction, il s'opère dans les deux sens. C'est-à-dire tout d'abord que il y a un très grand sérieux de ces fictions, c'est-à-dire que pour un grand nombre d'entre elles, elles s'appuient sur des développements récents des sciences, elles cherchent à anticiper sur des avenirs possibles de la science, elles cherchent à extrapoler sur certaines caractéristiques qui sont déjà présentes et identifiables dans notre quotidien. Donc ça serait la dimension sérieuse des fictions, même si ça a l'air, comment dire, tiré par les cheveux. Il y a une volonté de dire quelque chose sur le présent, puisque finalement ces fictions, elles sont d'abord faites pour être consommées aujourd'hui. Donc elles doivent, d'une certaine manière, scintiller pour les consommateurs actuels, c'est-à-dire nous appeler vers elles de manière à ce que nous découvrions leur contenu et pensions avec elles et que nous les aimions. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que il ne s'agit pas seulement pour les fictions d'exploiter certaines découvertes des sciences en extrapolant. Il s'agirait de ne pas, disons, se laisser abuser par le sérieux des scientifiques eux-mêmes et de bien comprendre que derrière toute l'entreprise scientifique, il y a des rêves absolument délirants. Alors, les scientifiques, une fois qu'ils sont financés, qu'ils travaillent dans leur laboratoire, ils peuvent, disons, tenter d'établir une sorte de clôture, et de tenir les fictions à l'écart. Mais en vérité, les scientifiques eux-mêmes savent très bien que s'ils veulent être financés, ils doivent jouer de cette corde fictionnelle, de cette corde émotionnelle, de cette corde idéaliste, finalement, idéale, au sens où ils doivent se situer sur un plan de promesses, un plan presque eschatologique qui consiste à dire, si vous financez nos recherches, nous ferons reculer la mort, nous irons plus vers la vie éternelle, les humains pourront se reproduire sans copuler. Vous voyez, on peut imaginer quantité de choses. On pourra se téléporter, une énergie qui ne polluera plus. Enfin, la vie éternelle, la pierre philosophale ne sont pas pour rien à l'aventure scientifique. Sans cela, on n'aurait pas développé les sciences, tout court. Donc, il faut bien ici rappeler que, disons, l'origine la plus folle des sciences les plus sérieuses. Et ça, je crois que c'est utile parce que, finalement, les sciences ne sont pas la simple description de ce qui est. Elles sont aussi une réflexion tout à fait délirante sur le pourquoi pas. C'est pas simplement le pourquoi, c'est aussi le pourquoi pas, c'est-à-dire l'ouverture de nouveaux possibles, de nouvelles possibilités pour les humains, pour la réalité. Le principe même d'une activité comme la technique, c'est de connaître les lois naturelles pour leur faire produire de nouveaux effets. Eh bien, c'est exactement ce qu'on appelait au XVIe siècle la magie naturelle. C'est-à-dire que dans toute activité scientifique, il y a bien une forme de ce qu'on appelle le merveilleux.
Voici donc maintenant, on tient les deux bouts de cette logique des fictions. Et à partir de cela, vous allez dresser un inventaire des presque humains. Vous écrivez: l'inventaire des presque humains peut commencer par prélever dans la littérature tous les personnages fabuleux. Comment avez-vous effectué cet inventaire? Parce que le corpus est gigantesque, il vous a fallu, bien entendu, essayer par des biais, par des liens, essayer de trouver ces douze figures de presque humains.
Alors, vous voulez la cuisine en fait, là, c'est ça. Il y a des dieux aussi dans la cuisine. Alors, comment dire? J'ai longtemps fonctionné, on va dire, de manière un peu rhapsodique, c'est-à-dire pour moi, il y avait des personnages qui s'imposaient. Donc, quels étaient ces personnages qui s'imposaient? Outre donc les cyborgs, il y avait des robots manifestement qui avaient leur logique propre, c'est-à-dire des êtres entièrement mécaniques qui s'apparentaient aussi à l'intelligence artificielle, mais qui avaient un caractère inflexible. Il y avait aussi des mutants avec leurs variations individuelles, mais qui prétendaient devenir en quelque sorte une norme pour l'espèce. Il y avait les zombies qui n'étaient plus exactement ce que nous sommes, mais qui l'avaient été, et qui avaient cette dangereuse propension à envahir l'ensemble du monde, voire à le conduire à l'apocalypse, au cataclysme final. Donc il y avait ces personnages-là, et pendant plusieurs années, j'ai comme ça tâtonné et fonctionné à partir d'un système où j'avais en gros six catégories différentes, six types de personnages. Et puis, déjà, je trouvais que c'était beaucoup, en fait, de manier ces personnages, d'essayer d'éclairer ce que chacun d'eux nous faisait penser, d'étudier les différents visages qu'ils prenaient. Voilà, donc ça a été la période, on va dire, initiale, avec cette typologie de six qui fonctionnait pas mal et qui permettait déjà de voir beaucoup de choses, de dire beaucoup de choses. Et puis, à un moment, finalement, il y a eu cette montée en puissance et qui s'est faite de manière un peu, comment dire, ironique, je dirais, mais où finalement, je me suis dit, en réalité, il faut monter en puissance, il faut construire quelque chose de plus ample, non pas simplement prélever ici ou là telle ou telle figure particulièrement saillante, mais il faut se mettre en état de produire le système complet des figures. Donc, c'est une ambition absolument délirante, en fait, on le conçoit bien, et puis extrêmement critiquable. Donc, pourquoi se livrer à un tel projet? Je parlais du délire des scientifiques tout à l'heure, mais il y a un délire philosophique très net ici qu'il faudrait diagnostiquer. Alors, quel est l'intérêt de ça? Eh bien, je pense que finalement, faire des tableaux, c'est très utile. Pas simplement utile au sens où tout à coup, toute chose serait enfin à sa place et on pourrait se reposer. Mais il y a une lecture, je dirais, dynamique du tableau. C'est-à-dire, un tableau, c'est aussi quelque chose contre quoi on pense. C'est-à-dire, une fois que le tableau est produit et prétend donner l'ensemble des figures existantes, bah, produisez n'importe quelle figure et à partir de là, bah, on va s'interroger sur bah, où la mettre. Et donc là, on voit que le tableau est un outil analytique, c'est-à-dire, on va dire, ah ben, on peut voir cette fiction, prenez Frankenstein par exemple, on peut le lire en insistant sur tel aspect, ou plutôt sur tel autre, ou plutôt sur tel autre. Donc les catégories ne sont pas là pour dire Frankenstein se met à cette place-là, mais plutôt pour dire, regardez les différents sens qu'on peut donner à la fiction de Frankenstein en fonction du point de vue qu'on adopte. Donc, il y a une dimension analytique, ben, il y a une dimension critique aussi, c'est-à-dire, en fait, sont distinguées ici telle et telle catégorie, mais est-ce que tel exemple ne ferait pas finalement exploser ces deux catégories? Alors, c'est très difficile parce que je suis quand même quelqu'un de rusé, donc j'ai essayé de parer à de nombreuses objections, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un tableau ne doit pas être envisagé comme une prison. Un tableau, c'est avant tout un instrument qui permet de faire jaillir du sens. Voilà. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont dans la tristesse et dans la méfiance par rapport aux outils. Par exemple, j'entends des gens très sérieux dire que les dictionnaires sont des prisons pour les mots. Non, les dictionnaires enregistrent des usages. Après, libre à nous d'utiliser les mots dans des sens inédits ou nouveaux, ou de créer des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Donc, voilà, le dictionnaire n'est pas plus une prison que n'importe quelle table est une prison. Ce sont des outils qu'on ingénie en vue de produire du sens. Voilà. Et donc, c'est à ce jeu-là que j'ai voulu jouer. C'est-à-dire, c'est une sorte de défi donné, lancé aux consommateurs de fiction, qui consiste à dire, finalement, toute la diversité de l'expérience ne se donnerait-elle pas à lire selon le parcours que je propose?
Et donc un usage des tableaux à des fins classificatoires. Ça, on a bien compris du coup votre propos là-dessus et sa justification, Thierry Hoquet. Alors, pour entrer dans ce détail de tableau, ce que j'aimerais que nous allions à... Justement, sur les détails, déjà dire qu'il y en a 12, mais ils sont classés, ils sont rangés. Ils sont rangés par groupe de 3, c'est-à-dire qu'il y a 4, on va dire constantes, mais constantes n'est pas le bon terme. Je vais reprendre vos termes à vous. Vous écrivez que vous partez des dimensions fondamentales de l'existence humaine distribuées selon 4 titres. Donc je dis bien... Dimension fondamentale de l'existence humaine distribuée selon 4 titres, vitalité, moyen, fin et devenir. Et déjà par ces 4 dimensions fondamentales de l'existence humaine, il va y avoir un début classificatoire.
Oui, alors merci. Il faut effectivement ne pas arrêter de gloser ce que j'ai essayé d'enfermer dans l'espace réduit du tableau. Autrement dit, comme je le disais tout à l'heure, le passage au presque humain, c'est tout à coup le sentiment d'une perte, d'un effroi, d'un tremblement, d'une augmentation, mais de quelque chose qui nous arrache à cette condition primitive. Or, de quelle manière est-ce que ça se produit? Tout d'abord, je dirais, une horreur ou un effroi devant la vitalité en nous, c'est-à-dire que ce qui nous répugne ou ce qui nous arrache à l'humanité en nous, c'est d'abord le fait que nous sommes des êtres organiques, on peut dire, avec des besoins tout à fait monstrueux. ça donne lieu à quantité de pathologies chez nous. Quand on dit de quelqu'un qu'il est réduit à l'état végétatif, en coma végétatif, on voit bien qu'il y a quelque chose de perdu, de diminué. Quand quelqu'un refuse de s'alimenter, en fait, pour telle ou telle raison, ou au contraire, est pris d'une pulsion orale tellement forte que l'alimentation est devenue sa seule obsession. On voit bien qu'il y a comme ça plein de devenirs étranges, monstrueux, inquiétants qui se jouent autour de la vitalité, de l'alimentation, de la consommation, de la défécation, de la transpiration. Enfin, il y a quelque chose d'animal en nous qui ne cesse de se maintenir, de ressurgir, de nous envahir. Donc, le premier effroi, il est là, dans ce que j'appellerais la subsistance, le conatus. Que faire pour persister dans l'existence? Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, il y a d'autres questions qui se posent à nous et qui nous font trembler. La deuxième, je dirais, ça serait l'effroi devant l'ablation de la chair. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que quand je vois, Cronenberg a joué avec ça dans Crash par exemple, mais il y a quantité d'exemples, qu'est-ce qui fait que quand quelque chose en moi se replie, se contracte à l'idée de perdre mes membres, de perdre ma tête, de voir ma chair entaillée, entamée. Donc ça serait plutôt de l'ordre de la capacité, de la puissance, c'est-à-dire ce que je peux faire, ce dont je peux m'augmenter, toute la question des instruments dont nous nous entourons pour réussir à parvenir à certaines fonctions, à réaliser certaines tâches, à voilà, qu'est-ce qui nous est jugé nécessaire en fait. Et puis ensuite, d'autres questions se posent concernant, je dirais, le vertige de ma naissance. Et ça, c'est ce que j'ai appelé en quelque sorte les fins, c'est-à-dire ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Quelle est finalement la question de l'origine? Et du coup, du même coup, quel sens a mon existence par rapport à ce pourquoi je suis là en fait? C'est-à-dire, suis-je là pour mener la vie que je veux telle que je souhaite la mener, ou bien ne suis-je là que comme chair à canon, cobaye de laboratoire ou plus-value exploitable pour le capitalisme, en fait. Vous voyez, donc il y a plein de manières où le sens de mon existence tremble devant les usages qui sont faits de ma personne ou les fonctions que je suis appelé à remplir dans la société. Et enfin, je dirais, il y a une angoisse fondamentale devant l'existence en général, ce qu'on pourrait appeler la question de la vocation, que j'appelle dans le livre la question du devenir, c'est-à-dire, que suis-je appelé à être ? Moi, c'est-à-dire là, cette fois-là, la question, ce n'est pas celle des moyens qui me rendent capable, ni celle des fins auxquelles je suis supposé servir dans un cadre social plus général, mais la question plus générale de... Qu'est-ce que je peux devenir? Qu'est-ce qu'il est en moi de devenir? Quelle est ma place finalement dans, non pas dans la société simplement, mais dans l'histoire, je vais dire. C'est-à-dire, quel va être l'accomplissement de ma destinée? Et ici, il y a quelque chose de, voilà, qui nous touche tous de manière très intime. On a tous nourri, on nourrit tous le sentiment d'être l'élu, parce qu'on est choyé, parce qu'on est aimé, parce que chaque enfant est une promesse, parce que chaque enfant a des rêves. Donc, y a des moments où on a rêvé de quelque chose, et puis ces promesses, bah, elles prennent différentes incarnations, elles suivent différentes trajectoires, elles prennent différentes formes, et ça, je trouve ça touchant, en fait, dans l'expérience humaine. Il y a des vies qui nous rendent tristes, parce qu'on se dit qu'elles n'ont pas donné tout ce qu'elles pouvaient donner. Il y a des vies qui nous éblouissent, parce que tout à coup, elles semblent transportées au devant de l'histoire, sur le devant de la scène, et puis après, elles peuvent retomber aussi bien, et à nouveau, ça nous attriste. Mais donc, on a comme ça cette passion devant pas seulement les humains pour ce qu'ils sont, ce à quoi ils servent, etc. Il y a aussi toute cette dimension complètement folle des destinées et de notre passion pour les destins, en fait. Le nôtre, mais aussi ceux des autres que l'on consomme avec une passion tout, et un enthousiasme, une curiosité tout à fait contagieuse.
Et alors Thierry Hoquet, à partir de ces quatre dimensions fondamentales de l'existence humaine. Vous arrivez à un autre tableau, et c'est donc le cœur de votre livre sur les presque humains. C'est là où on a véritablement les douze catégories de presque humains, qui sont regroupées trois par trois. Et donc on va lire ce tableau-là parce qu'il est très très clair et c'est tout le sujet de la deuxième partie de votre livre. Ces douze catégories sont classées. Premier classement, les aliens, où il y aurait les ghouls, les zombies, les symbiotes. Deuxième catégorie, les équipés, où il y aurait les mechas, les cyborgs, les organorgues. Troisième catégorie, les golems, avec les robots, les clones, les androïdes. Quatrième et dernière catégorie, les trans, avec les rogues, les avatars et les mutants. Et donc là, avec ce tableau, on aurait de manière synoptique l'ensemble de ce que vous avez identifié en tant que presque humain. Et c'est donc très très pratique. Et effectivement, à partir de cette base, on peut essayer de vouloir ajouter d'autres éléments, mais au risque et péril de l'ajout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, j'imagine, sans cesse discussion pour vérifier que ça rentre dans le tableau ou ça n'y rentre pas, selon certains items, certaines valeurs, afin de vérifier. Alors, parlons déjà de ce tableau, qui est une sorte de... Enfin, vous avez bien justifié pourquoi on en arrive à l'usage de ce tableau synoptique et qui est très très, qui est très très pratique en fait. Parce que pour chaque catégorie, bah, après vous allez leur poser les questions pour vérifier et pour les justifier surtout.
Alors, il ne faudrait surtout pas donner l'impression à notre auditoire qu'il y a quelque chose qui retombe au moment de ces tableaux. Parce que c'est vrai que c'est un mode d'écriture qui est peut-être un peu repoussant, en fait, difficile d'accès. Quand on les lit comme ça, ces 12 catégories, avec leurs titres, on a l'impression d'un monde très étrange. Il est difficile de voir finalement peut-être ce qui se dessine très précisément derrière tout ça. Donc, il faut d'abord, je pense, redonner vie à tout ça. Donc, redonner vie à tout ça, c'est d'abord regarder comment, derrière chacun de ces mots, se cachent finalement des histoires, des contes, des trajectoires individuelles, des problèmes philosophiques. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure, on a terminé en terminant sur notre intérêt pour les destinées, hein, c'est ce que j'appelle les trans, c'est-à-dire... comment nous nous comportons dans le temps et comment notre trajectoire individuelle se dessine. Alors ici, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de personnages touchants parce qu'ils jouent avec leur trajectoire. Ceux que j'appelle les rogues, c'est ceux qui sont justement les bloqués en fait. Ceux qui deviennent monomaniaques ou obsessionnels, qui perdent la magnifique plasticité de l'enfance pour se figer dans une sorte de ratiocination, de répétition un peu stérile. Alors, il y a le Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, il y a, dans un sens, je dirais, Dark Vador, c'est une forme comme ça de rogue, vous voyez, de personnage qui, à un moment, portait des espoirs fous, mais qui, à un moment, s'est figé dans quelque chose d'étroit, de négatif, et donc, finalement, s'est perdu. Par contraste, si on prend les personnages d'Avatar, ça va être l'idée de description d'un vertige complètement symétrique où la personne, où le personnage se perd, non pas pour s'être figé hâtivement dans une position et non plus sortir, mais au contraire, par refus de se fixer et qui tout à coup est pris d'une sorte de trans de la transition, c'est-à-dire qui va dans un sens, qui va dans l'autre, et qui, à la fin, ne sait plus à quel monde il appartient. Alors, j'ai pris le terme de l'avatar parce qu'il me semble que c'est typique de, disons, la culture des jeux vidéo, où on peut comme ça se créer un double qui devient parfois plus réel que soi-même, et qui mène quantité de vie dans des mondes parallèles et qui ne communiquent pas nécessairement les uns avec les autres. Donc, vous voyez, entre le rogue, pardon, qui est monomane et en quelque sorte dont le devenir est bloqué, On a l'avatar dont l'identité est multiple, polymorphe et qui à la fin devient presque inassignable. Alors, entre ces deux extrêmes, je dirais, la fixation et la transition, vous avez une synthèse possible, peut-être une réconciliation de ces contraires. Et donc, il me semble que c'est ce qui nous est apporté par la figure du mutant. Pourquoi ? Le mutant, on va dire, a une très belle formule. Sa fonction, c'est de devenir ce qu'il est. Deviens ce que tu es. C'est une formule très complexe, parce qu'en fait, il l'est déjà, donc pourquoi aurait-il à le devenir ? Il le devient, donc il ne l'est pas encore. Mais finalement, c'est ça. Mutant, c'est l'idée qu'on est porteur d'une promesse, mais que cette promesse doit être réalisée. Donc, c'est dans ce sens que ça réconcilie les contraires, en quelque sorte. Donc, à chaque fois, disons, j'essaye de raconter à partir de certains cas paradigmatiques, certaines histoires qui m'ont paru particulièrement significatives, cette tension entre des figures qui sont négatives, par restriction, par négation, des figures qui sont au contraire excessives par leur volonté, leur désir, leur possibilité polymorphe. Et puis, comment d'autres personnages nous paraissent beaucoup plus raisonnables en quelque sorte, et finalement sont presque humains, j'allais dire. Cette fois-ci, dans un sens, finalement, ils sont très proches de nous, voilà. Le mutant, je le disais, c'est une sorte de figure de l'adolescent, de même que l'ensemble de ces figures, réconciliatrices, que j'appelle les symbiontes. Nous ne pourrions pas exister sans coexister avec de nombreuses espèces. Les organorques, c'est-à-dire nous ne saurions pas exister sans avoir une sorte de rapport que nous essayons le plus équilibré possible avec tout un équipement technique. Et enfin, les androïdes, c'est-à-dire que dans une société, chacun est nécessairement une fin en lui-même, mais aussi un moyen pour d'autres, c'est-à-dire on doit remplir certaines fonctions dans la société, on doit rendre des services et non pas simplement tirer profit d'eux. Donc tout ça, ça dessine finalement une sorte de vision un peu synthétique de ce que c'est que être humain dans dans l'ensemble de ces dimensions.
Et donc pour chacune de ces catégories, vous les interrogez de cette manière-là. Si on prend l'exemple de Ghoul, par exemple, la première figure interrogée, première possibilité de l'interroger, le personnage. Quel est le personnage de Ghoul ? Deuxième manière de l'interroger, logique de la fiction de Ghoul. Donc pour chacun, logique de la fiction. Et puis, troisième manière de l'interroger, impasse et aporie. Voilà, pour chacune des 12 catégories, ça passe par cette grille, on va dire interprétative, non, grille de consultation, grille de vérification, le personnage. Logique de la fiction, impasse et aporie. C'est votre technique de vérification.
C'est aussi ma technique de mise en circulation des concepts, parce que de montrer qu'aucun n'est clos sur une figure schématique. Voilà. C'est ma manière d'éviter la caricature ou la réduction. Voilà. Si on prend ce qu'on appelle la goule, c'est un personnage qui a une histoire très riche, très complexe, qui s'apparente au folklore arabe et perse, qu'on retrouve dans les figures de Strige, de Sphinx, etc., qu'on retrouve également aujourd'hui, et c'est ça qui en fait un personnage contemporain, dans certains mangas où on a comme ça cette Tokyo Ghoul, cette ghoul de Tokyo, qui est l'objet d'un manga à succès. Alors qu'est-ce que c'est et du coup, qu'est-ce que j'en fais ? Parce que donc, mon objectif, vous l'avez compris, ça n'est pas de faire l'histoire de cette figure ou de recenser l'ensemble de ses occurrences. Donc, pour moi, c'est quoi le personnage de la goule ? Qu'est-ce qui se cache derrière ces personnages ? C'est le personnage de la voisine ou le voisin insignifiant, mais qui se révèle être un affreux prédateur, en fait. Donc, ça peut être l'araignée qui tisse sa toile et qui vous attend patiemment. Ça peut être, voilà, c'est quelqu'un insignifiant, mais dont le pouvoir prédateur est absolument effrayant et qui peut vous... Voilà, s'il vous attrape, il vous mange. Donc, c'est juste ça. La goule, elle n'a pas d'autre prétention que ça. Elle se repaît de ses victimes. C'est la veuve noire, etc. Donc, j'analyse d'abord, disons, cette histoire, cette figure, Et je montre comment elle fonctionne, en fait, hein, comment elle peut se prêter à des histoires un peu plus complexes que ce que je viens de raconter. Ensuite, on voit bien que si on est une goule, ou s'il n'y avait que des goules, le monde serait triste. Hein, il y aurait comme ça des consommations, des prédations, et puis l'histoire tournerait court en quelque sorte. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que parmi les ghouls, il y en a qui sont aussi plus désincarnés en fait que cette voisine. Par exemple, nuire à mon prochain et l'éliminer quand il s'approche de moi, je peux le faire de plein de manières différentes en fait, pas simplement en le consommant. Donc, c'est ce tremblement-là qui montre que finalement, aussi, la figure de la goule, elle est dans une temporalité qui est très étrange parce qu'elle elle attire, elle consomme, elle est au bord de l'extinction et puis tout à coup, hop, elle retrouve une substance vitale et elle repart pour un tour. Ou alors, elle entre en léthargie, ou alors, voilà. Donc, c'est une forme comme ça assez pauvre finalement hein, de l'existence humaine et même de la fiction. Donc, heureusement. Cette figure-là, elle peut être mise en mouvement, elle peut être rendue dynamique quand on pense par exemple à des prédateurs ou des consommateurs qui, eux, vont se multiplier, vont transmettre leur propre forme, produire des copies d'eux-mêmes, etc. Donc, vous voyez, la dynamique vitale, c'est-à-dire ce caractère monstrueux qu'a la consommation, le fait de devoir se nourrir pour survivre, etc., se prête finalement dans notre imaginaire à quantité d'histoires.
Et vous en arrivez à ce grand tableau du déploiement philosophique des 12 catégories. Donc c'est un tableau à double entrée. Et là, on a véritablement une vue, on va dire, définitive de votre entreprise, Thierry Hoquet, puisque pour les 12 catégories, vous les interrogez avec sur leur fondement philosophique. Le couple d'opposition, enfin les couples d'opposition, l'idéal visé, les valeurs incarnées et le risque associé. Et là, on en arrive un peu au sommet de ce que de votre entreprise classificatoire.
Alors, c'est gentil, je vous remercie de le dire de cette manière, parce que en fait, comment dire, on pourrait considérer que toutes ces histoires-là, finalement, elles sont accessoires face à des problèmes beaucoup plus importants, qui sont ceux qui sont traités en première partie, justement, c'est-à-dire le fait de ce qui se dessine autour du transhumain et du post-humain, l'idée de que les humains peuvent s'anéantir, l'idée de l'humanisme, de l'anti-humanisme, etc. Donc il y a toutes ces figures-là qui paraissent être des problèmes tout à fait fondamentaux et pour lesquels les personnages que j'analyse paraissent presque marginaux, en fait, hein, au sens de notes marginales, de notes de bas de page presque. Et pourtant, pour moi, il y a quelque chose dans cette tabulation, dans cette déclinaison de l'humain, cette diffractation en fait de l'humain dans ces différentes figures, quelque chose de tout à fait fondamental, au sens où pour moi, l'ensemble de ces figures permettent de répondre à une question à laquelle finalement personne n'a eu de réponse, qui est de comprendre ce que c'est que l'humain. Et comprendre ce que c'est que l'humain, ça ne peut pas se faire dans une simple définition. Même définir l'humain comme un être de manque, par exemple, comme l'a tenté l'anthropologie philosophique allemande, ça ne suffit pas. Donc, en quoi est-ce que ces figures, dans leur multiplicité, dressent un portrait de l'humain? Elles dressent un portrait peut-être par petites touches, si vous voulez. Et en comprenant aussi l'ensemble de ce qu'on peut perdre, l'ensemble des manières dont l'aventure humaine peut dérailler, il me semble qu'on comprend mieux de quelle manière non seulement l'humain est constitué, mais également de quelle manière l'humain joue en tant que valeur, c'est-à-dire ce à quoi nous tenons quand nous voulons être humains, quand nous jugeons que quelqu'un est ou n'est pas humain, ce que nous disons, ce à quoi nous tenons, ce que nous affirmons comme valeur dans toute cette déclinaison. Alors, c'est avec cette question-là en tête que je conclus mon livre, effectivement, en proposant ce tableau qui tente le déploiement philosophique de ces catégories. C'est-à-dire qui, pour chaque chacun des personnages que j'ai retenus, que j'ai constitués dans cette aventure tabulaire, eh bien, quel est le problème propre qui est posé par chacune de ces figures, et de quelle manière ça nous permet de comprendre des idéaux qui sont poursuivis par les êtres humains, mais aussi des risques qui menacent les humains. Je donne un exemple. Quand on nous parle, par exemple, de robots, quand on nous montre le Terminator, par exemple, on pourrait tout à fait considérer que c'est quelque chose de marginal, quelque chose d'accessoire par rapport à l'humain. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans la tension qui se crée entre ce Terminator, ce robot, ou bien HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace, et les humains, il y a quelque chose qui se joue dans la tension entre des choses qui intéressent les humains, mais qui peuvent dérailler. Je m'explique. Ce qu'incarnent ces robots, c'est en quelque sorte l'inflexibilité, la soumission complète à une mission. C'est finalement ce que Sartre et Beauvoir appelaient le salaud, en fait. Le salaud, c'est qui? C'est la personne qui a l'esprit de sérieux, c'est-à-dire qui est prête, la personne qui est prête à tout sacrifier pour que sa mission soit remplie. Donc finalement, derrière des robots très complexes et qui paraissent machiniques, on a aussi le portrait de certains humains tout à fait concrets, en fait. Ceux qui appliquent les directives à la lettre et sont prêts à tout pour la réussite de leur mission. On a aussi, problématiquement, ceux qui se demandent, parce qu'un robot, finalement, c'est quoi? C'est une machine qu'on a construite en vue d'une fin. Mais finalement, quand cette fin se met à tout dominer, qu'est-ce qui reste d'humain dans tout ça? C'est-à-dire, on a quelque chose qui relève de ce que j'appellerais, on va dire, l'instrumentation technique. Un robot, ça n'est qu'un instrument technique, mais qui menace finalement d'arraisonner le monde, d'arraisonner les vivants au sens de les soumettre à certaines fins en vue de certains buts, c'est-à-dire finalement de tuer et de détruire le monde dans toute sa richesse, dans toute sa plasticité vitale, en le soumettant aux impératifs d'une raison téléologique.
Oui, et c'est là-dessus qu'on terminera, du coup, Thierry, ok, c'est que on comprend bien que ce qu'il y a derrière votre volonté classificatoire, c'est ça, c'est de pouvoir. Vous avez cette belle phrase en conclusion, l'intérêt des fictions de presque humain est de nous interroger en retour sur notre propre humanité. C'est cela que vous cessez de dire, parce qu'en fait, toute l'utilité de votre recherche classificatoire poussée vraiment à ses limites, c'est celle-ci. Et c'est là où, effectivement, vous agissez en qualité de philosophe, et essentiellement, c'est-à-dire cette relation avec l'humain et avec ces tableaux-là, on y voit plus, j'ai envie de dire, on y voit plus clair. On a peut-être enfin un outil qui nous permet de mieux nous décrire en tant qu'être humain.
Oui, alors je termine en disant que effectivement, Romain Gary avait cette jolie image en disant l'humanité, c'est pas quelque chose qu'on pourra prendre en pilule en fait, hein, pas quelque chose qui pourrait nous être donné et dont on aurait la garantie. Donc voilà, si j'ai fait en tant que philosophe ce parcours par l'infinie diversité des formes fictionnelles, c'était avec cette idée de finalement que ce qui nous intéresse dans ces histoires, c'est qu'elles nous interrogent sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons être. Et c'est très important parce que, en fait, les humains sont peut-être, parmi toutes les espèces vivantes, la seule qui s'inquiète de ce qu'elle est et de ce qu'elle doit être. Donc, c'est véritablement quelque chose qui nous est propre que cette multiplication que nous opérons de miroirs autour de nous, miroirs déformants, anamorphose, monstruosité, hybride, qui nous permettent finalement de mieux nous comprendre. De la même manière que Bacon expliquait au XVIe siècle que les monstres sont finalement un accès pour nous au fonctionnement normaux de la nature, mais on peut dire que toutes ces créatures hybrides, bancales, étrangement différentes de nous, sont autant de manières pour nous, les humains, de réfléchir à ce qui importe et à notre identité. Voilà, quand nous voyons l'Elephant Man de David Lynch répéter sa triste litanie « Je ne suis pas un animal », eh bien, ça n'est pas un message qui est adressé aux bêtes, qui est adressé aux animaux, c'est un message qui est adressé aux humains eux-mêmes et qui a pour fonction de les interroger sur leur propre humanité. C'est-à-dire que, en nous disant qu'il n'est pas un animal, l'homme éléphant nous retourne notre propre insulte, notre propre l'injure que nous lui avons lancée, qu'il n'était qu'une bête. Il nous dit, si vous ne reconnaissez pas l'humanité en moi, c'est que vous êtes vous les bêtes. Et donc, il y a cette relation dynamique avec cette idée que les presque humains, ce sont ceux qui frappent à la porte de l'humanité pour l'empêcher de se reclore sur elle-même et pour la maintenir dans un état d'ouverture, de dialogue et de perpétuelle interrogation.
Merci beaucoup Thierry Hoquet.
Merci à vous.